Johann Sfar.
Ce qui m'intéresse dans Bilbo, c'est la simplicité de l'exposition. Le fait que c'est un personnage qui vit une aventure avec un dragon et avec des compagnons. Les moments qui me paraissent les plus bouleversants, c'est quand tout d'un coup, comme dans un conte, il y a des ogres qui vont le manger, qui veulent mettre ses copains dans un sac. À un moment, ils sont cachés dans des tonneaux, puis ils doivent naviguer sur une rivière dans les tonneaux. Ça, ce sont des sentiments très enfantins.
Ça peut pas faire de mal.
Après le passage de Bilbo le Hobbit au Seigneur des Anneaux, c'est la tentation de l'épopée, c'est la tentation du sublime que j'adore. Hein. C'est pas que j'aime pas le Seigneur des Anneaux, c'est que je crois que je suis un des rares lecteurs à avoir plus d'émotions dans Bilbo le Hobbit que dans le Seigneur des Anneaux.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. Non, c'est un trou de hobbit. D'où un certain confort. Sa porte, peinte en verre, était parfaitement ronde, comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable, pourvu de chaises bien astiquées et de nombreuses patères pour accrocher chapeaux et manteaux, car ce hobbit aimait la visite. Ce hobbit était un hobbit fort bien nanti et il s'appelait Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémorial et ils étaient vus comme des gens très respectables, non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. Or, cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à une aventure. Il a peut-être perdu le respect de ses voisins, mais il a gagné... Enfin, vous verrez s'il a gagné quelque chose à la fin du conte. Mais qu'est-ce qu'un hobbit ? Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grandes gens, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'était, des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus petits que les nains barbus. Les hobbits, eux, n'ont pas de barbe. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous les jours, qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balourds comme vous et moi arrivent avec fracas. Ils ont tendance à prendre du ventre. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune, et ne portent pas de chaussures, parce qu'ils développent un cuir naturel sous la plante des pieds et une épaisse touffe de poils bruns sur le dessus, semblable à leur chevelure, qui est frisée. Ils ont de longs doigts foncés et agiles, un visage souriant et un rire franc et chaleureux, surtout après le dîner. Maintenant, vous en savez assez pour la suite. Par un curieux hasard, un matin, il y a bien longtemps, dans la quiétude du monde, alors qu'il y avait moins de bruit et plus de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Bessac se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner en train de fumer une longue pipe en bois dont l'énorme fourneau touchait presque ses orteils, soigneusement brossés, quand Gandalf apparut. Gandalf, le magicien. Si vous aviez entendu ne serait-ce que le quart de ce que j'ai entendu dire à son sujet, vous vous diriez que quelque chose de remarquable était sur le point d'arriver. Les aventures surgissaient partout où il allait, de manière tout à fait extraordinaire. Ainsi commence l'histoire de Bilbo le Hobbit, un conte de fées que l'écrivain anglais John Ronald Reuel Tolkien écrivit d'abord pour ses enfants au cours de l'hiver 1930.
Je l'ai lu à mes enfants, aux deux aînés.
Tolkien.
Ils l'ont apprécié dans l'ensemble. Ils ont été très intéressés. Je pensais qu'il était approprié de les inclure dans une histoire pour enfants. Mais ils haïssaient les apartés comme « Alors maintenant, je vous ai assez dit que », etc. Ils détestaient tout ce qui sonnait comme si vous parliez à un public réel.
Professeur à Oxford et spécialiste des langues nordiques, l'auteur se souvient de sa première source d'inspiration. Je revois encore le coin de ma maison au 20 Northmore Road où c'est arrivé. J'avais une énorme pile de copies d'examens. Et noter des examens durant l'été est une lourde tâche, très laborieuse et très ennuyeuse aussi, hélas. Je me rappelle avoir ramassé une copie où il y avait, je lui ai presque donné un point supplémentaire, une page laissée vierge. Magnifique. Rien à lire. Alors j'ai griffonné dessus, ne me demandez pas pourquoi, au fond d'un trou vivait un hobbit. La légende familiale raconte ensuite que le fils de l'auteur, Christopher, âgé de 13 ans, écrivit au Père Noël en décembre 1937 pour lui demander en cadeau le livre du Hobbit. Publié deux mois plus tôt, le roman fut d'emblée salué comme un chef-d'œuvre de la littérature enfantine. Mais c'est presque 20 ans plus tard, en 1956, que Tolkien connaîtra la célébrité avec l'épopée du Seigneur des Anneaux, qui n'est autre que la suite des aventures de Bilbo le Hobbit. Ce soir, avant Noël, redécouvrons ce texte fondateur de la mythologie de Tolkien, récemment adapté au cinéma par le réalisateur Peter Jackson. Un texte réédité aux éditions Christian Bourgois dans une nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Bienvenue dans l'univers féerique et inquiétant de la contrée sauvage, peuplée de trolls, de nains, d'elfes et de bien d'autres créatures. Et voici comment tout débuta. D'un tempérament très poli, Bilbo le Hobbit invite Gandalf le magicien à venir prendre le thé chez lui le lendemain. Mais à l'heure du rendez-vous, le gentleman n'est pas au bout de ses surprises. Extrait du chapitre 1, une fête inattendue. Que feriez-vous si des nains arrivaient chez vous à l'improviste et accrochaient leurs affaires dans votre hall d'entrée sans un mot d'explication ? S'il aimait les visiteurs, Bilbo ne jugeait pas inutile de les connaître avant qu'ils n'arrivent, et il préférait les inviter lui-même. Il songea soudain avec horreur qu'il pourrait manquer de gâteau, et que, vu son devoir d'hôte, qu'il remplirait coûte que coûte, il serait peut-être obligé de s'en passer. Balin, à la barbe blanche, et Dwalin, à la barbe bleue, discutaient à table comme de vieux amis, en réalité ils étaient frères, et Bilbo venait de leur servir de la bière et des gâteaux assez sèchement lorsque la sonnette retentit de nouveau avec bruit. Deux fois plutôt qu'une. Cette fois, c'est certainement Gandalf, songea-t-il en se pressant le long du couloir tout essoufflé. Mais ce n'était pas lui. C'était deux autres nains, aux barbes blondes, Kili et Fili. Tout ça ne me dit rien de bon, pensa M. Bessac. Il faut vraiment que je m'assoie une minute pour rassembler mes esprits et boire un petit quelque chose. Il avait à peine bu une gorgée dans un coin, tandis que les quatre nains assis autour de la table discutaient de mines d'or, de démêlés avec les gobelins, de trésors pillés par les dragons et bien d'autres choses encore qu'ils ne comprenaient pas et ne voulaient pas comprendre, parce qu'elles semblaient bien trop aventureuses, quand sa sonnette retentit de nouveau. Le pauvre hobbit s'assit dans le hall et enfouit son visage dans ses mains, se demandant ce qui s'était passé, ce qui allait arriver et s'ils allaient tous rester pour souper. Puis la sonnette retentit plus fort que jamais et il dut courir à la porte. Ils n'étaient pas quatre, mais bien cinq. Ils s'appelaient Dori, Nori, Ori, Oin et Gloin. Certains demandèrent de l'ale, d'autres de la porter, un réclamait un café et tous voulaient des gâteaux. Le hobbit fut donc fort occupé pendant un certain temps. Quand retentit un grand coup à la porte. Pas un coup de sonnette. Mais un puissant toc-toc sur la belle porte verte du Hobbit. Quelqu'un frappait avec un bâton. Bilbo se précipita dans le couloir, très en colère et complètement ébahi et éberlué. C'était le mercredi le plus déconcertant qu'il eût jamais connu. Il ouvrit la porte d'un coup sec et tous s'effondrèrent à l'intérieur, l'un sur l'autre. Encore des nains, quatre de plus. Et Gandalf était là, derrière eux, qui riait, appuyé sur son bâton. « Il avait passablement abîmé la belle porte. Il avait aussi, en passant, effacé la marque secrète qu'il y avait laissée la veille. « Laissez-moi vous présenter Bifur, Beaufur, Bombur et particulièrement Thorine, » dit-il. Thorine était un nain fabuleusement important. Nul autre, en fait, que le grand Thorine l'écu de chêne, lui-même, très fâché de s'être aplati sur le paillasson avec ses compagnons empilés sur le dos. « Maintenant, nous sommes tous là, » dit Gandalf. « Une joyeuse réunion. J'espère qu'il reste quelque chose à boire et à manger pour les derniers venus. Vous dites, du thé ? Non, merci. Un peu de vin rouge pour moi, je crois. Et faites cuire quelques œufs, ce serait gentil. Et sortez donc le poulet froid. Et les cornichons ?» Jusqu'à la tombée de la nuit, Gandalf présida l'assemblée et Bilbo tenta de garder un air impassible, comme si toute cette histoire était parfaitement ordinaire et ne ressemblait en rien à une aventure. Puis, tard dans la nuit, Thorine prit la parole. « Gandalf, mes frères nains et Monsieur Bessac, nous sommes réunis dans la maison de notre ami et complice, ce très excellent et très audacieux hobbit. Puisse la fourrure de ses pieds ne jamais tomber, et louange à son vin et à sa bière. Nous sommes réunis pour discuter de nos plans, de nos méthodes et moyens, politiques et procédés. Bientôt, avant l'aurore, nous entamerons notre long voyage. Un voyage dont certains d'entre nous, ou peut-être nous tous, sauf notre ami et conseiller l'ingénieux magicien Gandalf, pourraient ne jamais revenir. C'est une occasion solennelle. Les nains entonnèrent leur chant de conquérants. Bilbo sentit soudain son côté aventurier, son côté touc par sa mère, s'éveillait en lui. Et il voulut partir, et voir les hautes montagnes, entendre les pins et les chutes d'eau murmurer, explorer les grottes et tenir une épée au lieu d'une canne. Il imagina un dragon venu piller sa tranquille colline et la réduire en cendres. Il frissonna, et très vite il redevint ce bon vieux monsieur Bessac, originaire de cul-de-sac sous la colline. « Pensez-vous qu'il fera l'affaire ?» s'inquiéta Thorine à Gandalf. « Vous avez beau nous vanter les qualités de ce hobbit et dire qu'il est redoutable, mais quand j'ai vu ce petit bonhomme qui soufflait et frétillait sur le tapis, j'ai eu un doute. On dirait plus un épicier qu'un cambrioleur. » Monsieur Bessac, qui avait surpris leur conversation, s'avança d'un pas décidé. Son côté touc l'avait emporté. Tout à coup, il était prêt à renoncer à son confortable trou de hobbit pour qu'on le croie redoutable. Plus d'une fois par la suite, son côté Bessac, par son père, regretterait cette audace, d'autant qu'il ne comprenait rien à cette histoire de cambrioleur. Si je dis que c'est un cambrioleur, c'est que c'est un cambrioleur. Ou du moins, il le deviendra en temps utile, répondit Gandalf. Il a beaucoup plus de qualités que vous ne pensez, bien plus qu'il ne le croit lui-même. Vous aurez peut-être à me remercier si vous survivez. « Maintenant, mon cher Bilbo, allez chercher la lampe et faisons enfin un peu de lumière là-dessus. » Et sur la table, à la lueur d'une grosse lampe munie d'un abat-jour rouge, le magicien déroula un morceau de parchemin semblable à une carte au trésor. Comment Bilbo le Hobbit se découvrit un pouvoir surnaturel ? Le lendemain matin, Bilbo le Hobbit se lance donc à l'aventure, en compagnie de Thorine l'écu de chêne et les 12 nains. Sous la protection de Gandalf, ils font route vers les terres désolées, la forêt de grand-peur et la montagne solitaire, où il leur faudra affronter le dragon Smaug, qui a pillé le trésor des nains. Mais le chemin leur réserve bien des épreuves. Après avoir échappé aux trolls mangeurs de nains, ils livrent bataille contre les redoutables gobelins des montagnes de brume, armés jusqu'aux dents. C'est à l'issue de ce combat que Bilbo perd la trace de ses compagnons et erre dans les galeries de la montagne. À tâtons, dans l'obscurité, il fait une découverte capitale. Un étrange anneau de métal qu'il glisse dans sa poche. Bientôt le voilà les pieds dans l'eau, au milieu d'un lac souterrain. extrait du chapitre 5, Énigme dans le noir. Là, dans les profondeurs près de l'eau sombre, vivait le vieux Gollum. Une petite créature visqueuse, noire comme les ténèbres, hormis de grands yeux ronds qui luisaient dans son visage émacié. Il avait une petite barque qu'il promenait sur le lac sans aucun bruit. Il guettait les poissons qu'il attrapait à la vitesse de l'éclair. Il aimait aussi la viande. Celle des gobelins lui plaisait quand il s'aventurait seul au bord de l'eau pendant qu'il rôdait alentour. En fait, Gollum vivait sur un îlot de roches au milieu du lac. À présent, il guettait Bilbo de loin, ses yeux semblables à des longues vues. Bilbo ne pouvait le voir. Mais Gollum se posait beaucoup de questions à son sujet, car ce n'était visiblement pas un gobelin. Il monta dans sa barque et s'approcha de Bilbo, assis au bord de l'eau et au bord du découragement, profondément troublé. « Qu'on nous éclabousse, mon trésor ? Ça doit être un morceau de choix. Du moins, ça nous ferait une bouchée succulente, ça, Gollum. » Et en disant Gollum, il produisit un affreux bruit de déglutition. C'est de là qu'il tenait son nom, même s'il se désignait toujours lui-même en disant « Mon trésor !»« Qui êtes-vous » s'écria le Hobbit en brandissant son poignard. « Qu'est-ce qu'il a dans ses mains ? Une épée ?» dit Gollum, qui devint tout à coup très poli et continua « Peut-être si vous restez là qu'on causerait un peu avec lui, mon trésor. Il aime les énigmes, peut-être que oui. Hein. » Il voulait paraître amical, en tout cas pour l'instant, le temps de se faire une meilleure idée de l'épée et du hobbit, savoir s'il était vraiment seul, s'il était bon à manger et si lui-même avait réellement faim. Quant aux énigmes, ce fut tout ce qui lui vint à l'esprit. Les poser et parfois y répondre était le seul jeu auquel il s'adonnait il y a fort longtemps. « Très bien, » dit Bilbo, qui voulait lui faire plaisir le temps de se faire une meilleure idée de lui, savoir s'il était vraiment seul, s'il était féroce ou affamé, et si c'était un ami des gobelins. Ainsi Gollum siffla-t-il. « Cette chose, toute chose dévore, oiseau, bête, arbre, flore, elle mord l'acier, ronge le fer, réduit la pierre en poussière, elle tue les rois, sème la ruine, abat montagnes et collines. » Assis dans le noir, le pauvre Bilbo essaya de se concentrer, mais il était encore tracassé par l'idée d'être dévoré. Il passa en revue tous les horribles noms des géants et ogres dont il avait entendu parler dans les contes, mais aucun d'entre eux n'avait fait toutes ces choses. Il commençait à avoir peur, ce qui n'aide pas à la réflexion. Gollum sortit de sa barque, plongea dans l'eau clapotante, et Bilbo vit ses yeux s'approcher. La langue semblait lui coller au palais. Il voulait crier « Laissez-moi le temps, laissez-moi le temps !» Mais tout ce qui sortit de sa bouche fut un cri aigu et soudain « Le temps ! C'est le temps !» Bilbo fut sauvé par la chance et rien d'autre. Car c'était bien sûr la réponse. Déçu, Gollum sentit la colère monter en lui. Il s'assit dans le noir auprès de Bilbo qui en fut terriblement décontenancé. Selon les lois anciennes du jeu des énigmes, celui qui échouait devait laisser la vie sauve à son adversaire. Bilbo ne s'attendait pas à ce que cette chose visqueuse tienne promesse contre son gré. « Eh bien, » dit le Hobbit, qui reprenait peu à peu confiance, « qu'en est-il de votre promesse ? Vous devez me montrer la sortie. » « C'est ce qu'on lui a dit, trésor. Montrer la sortie au vilain petit visiteur, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il a dans ses poches, hein ? Qu'est-ce qu'il a dans ses poches, trésor ? Ne cessait de répéter Gollum. Mais qu'est-ce donc, en effet ? Se demanda Bilbo, haletant et trébuchant sur la pierre glissante. Il mit la main gauche dans sa poche et tâtonna à l'intérieur. L'anneau lui parut très froid lorsqu'il le glissa furtivement à son index. L'horrible sifflement de Gollum le talonnait. Terrifié, le hobbit se mit à courir plus vite, mais il se cogna les orteils contre une saillie du sol et s'étala de tout son long. Gollum fut sur lui en un éclair. Mais avant que Bilbo n'ait pu réagir, retrouver son souffle, se relever ou brandir son épée, Gollum fila tout droit sans le remarquer, poussant des jurons et des menaces. C'était à n'y rien comprendre. Gollum voyait parfaitement bien dans le noir, avec ses yeux perçants. Le hobbit se releva péniblement, puis avec une extrême prudence, il se mit à suivre le chemin emprunté par Gollum. Peut-être sans le savoir, celui-ci lui montrerait-il une porte de sortie. Bilbo tendit l'oreille, Il commençait enfin à deviner lui-même. Qu'on le maudisse, qu'on le maudisse, sifflait Gollum. Il est parti. Qu'est-ce qu'il avait dans ses poches? Oh, on le sait, on le devine, mon trésor. Mon cadeau d'anniversaire, il l'a trouvé. Oui, ça doit. Comment on l'a perdu, mon trésor? En passant ici la dernière fois, quand on a étouffé ce sale petit gobelin, les gobelins vont s'en emparer, Gollum. Et alors, on ne va plus jamais être en sécurité. L'un des gobelins va le mettre et personne ne le verra. Il sera là, mais invisible. Il va nous attraper comme un tricheur, Gollum. Gollum s'élança en avant à grandes enjambées. Bilbo le suivit, toujours avec prudence, mais ses pensées s'agitaient dans un tourbillon d'espoir et de questionnement. L'anneau qu'il avait trouvé semblait être un anneau magique. Il vous rendait invisible. Il avait entendu parler de tels objets, bien sûr, dans de très vieux contes, mais ne pouvait croire qu'il en avait réellement trouvé un, et ce, tout à fait par hasard. Néanmoins, il fallait se rendre à l'évidence. Gollum, avec ses yeux brillants, était passé tout près de lui sans le remarquer. Bilbo était invisible à présent. Gollum était vaincu.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Then with a crash came a great ringing shout. Rah! Hoom! Rah! The trees quivered and bent as if a gust had struck them. Tarun, narun, 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 tahora, kumba, kumba, noon. The Ents were coming.
Voici à présent le récit d'une métamorphose inattendue. Après avoir échappé à Gollum, Bilbo le Hobbit retrouve ses compagnons dans le royaume de Karok, où le seigneur Béorn, mi-homme, mi-ours, leur offre l'hospitalité. Mais le magicien Gandalf, considérant qu'il a accompli sa mission qui était d'accompagner les nains au-delà des montagnes de brume, leur annonce son départ. C'est donc seul, livré à eux-mêmes, que Bilbo et les 13 nains pénètrent dans la lugubre forêt de grand-peur, où les attendent de nouvelles mésaventures. Fuyant la menace des elfes sylvains, les nains se dispersent dans la nuit, laissant le pauvre Bilbo à nouveau seul. Extrait du chapitre 8, Mouche et araignée. Il s'était rarement senti aussi désemparé. Mais il ne tarda pas à se rendre compte qu'il était inutile de tenter quoi que ce soit avant que le jour lui apporte un peu de lumière, et tout à fait insensé de partir à tâtons et de se fatiguer sans l'espoir d'un petit déjeuner pour lui redonner des forces. Alors il s'assit par terre, adossé contre un arbre, et se mit à songer, encore une fois, ce ne serait pas la dernière, à son trou de hobbit, désormais loin derrière, et à ses garde-mangers mirobolants. Il était loin dans ses rêveries d'œufs, de bacon, de beurre et de toast, quand il sentit quelque chose le frôler. On eût dit une grosse ficelle collante qui se frottait à sa main gauche. Et lorsqu'il tenta de remuer, il s'aperçut que ses jambes étaient déjà entortillées dans cette substance, si bien qu'en se relevant, il tomba à la renverse. Puis la grosse araignée qui s'était affairée à le ligoter pendant qu'il sommeillait s'avança par derrière le hobbit et se jeta sur lui. Seuls les yeux de la créature étaient visibles, mais il pouvait sentir ses pattes velues alors qu'elle s'employait à tisser son abominable toile tout autour de ses membres. Heureusement qu'il avait retrouvé ses esprits à temps. Quelques secondes de plus et il eût été incapable de bouger. Même alors, il dut lutter contre elle de toutes ses forces pour se libérer. Il repoussa sa hideuse forme à main nue. Elle essayait de l'empoisonner pour l'engourdir, comme le font les petites araignées avec les mouches. Puis il se souvint de son épée et la tira du fourreau. Alors l'araignée fit un bond en arrière et il put couper les liens qui lui retenaient les jambes. Ensuite, ce fut son tour d'attaquer. L'araignée n'était manifestement pas habituée à voir sa proie brandir un tel dard, sinon elle se serait sauvée plus vite. Bilbo se rua sur elle avant qu'elle ne déguerpisse et lui asséna un coup d'épée en plein dans les yeux. Devenue folle, elle se mit à danser et à sautiller, remuant les pattes en d'horribles spasmes. Bilbo l'acheva d'un deuxième coup, puis il s'écroula et perdit connaissance pendant un long moment. La forêt était baignée de son habituel demi-jour grisâtre quand il revint à lui. L'araignée gisait sans vie à ses côtés et la lame de son épée était tachée de noir. Il ne sut dire pourquoi, mais le fait d'avoir tué l'araignée géante tout seul, en pleine nuit, et sans l'aide du magicien ou des nains ou de quiconque, eut un drôle d'effet sur lui. Monsieur Bessac se sentait différent, plus féroce et plus courageux malgré son ventre vide, tandis qu'il essuyait son épée dans l'herbe et la remettait au fourreau. « Je vais te donner un nom, lui dit-il. Je t'appellerai Dar. » Après quoi il partit en reconnaissance. La forêt demeurait silencieuse et sinistre, mais avant d'en sortir, il fallait d'abord aller à la recherche de ses amis, qui n'étaient sûrement pas bien loin, à moins qu'ils n'eussent été capturés par les elfes. Ou des choses plus monstrueuses. Jamais au grand jamais nous n'aurions dû ignorer les conseils de Beorn. Ne jamais nous éloigner du chemin, se lamenta-t-il. Nous voilà dans un beau pétrin maintenant. Nous, comme j'aimerais que ce soit nous. Rester tout seul est insupportable. Bilbo sentait qu'il était imprudent de crier et il avança aussi furtivement qu'il le put. Prudemment, il avait mis son anneau avant de se lancer. C'est pourquoi les araignées ne le virent pas plus qu'elles ne l'entendirent. Il avait réussi à se frayer un bon bout de chemin sans faire de bruit lorsqu'il vit en avant un endroit particulièrement sombre et dense, d'une noirceur qui surpassait celle de la forêt même, comme un lambeau de nuit resté accroché aux arbres. En s'approchant, il comprit qu'il s'agissait d'un vaste réseau de toiles d'araignées entremêlées. Soudain, il vit aussi qu'il y avait des araignées de taille monstrueuse nichées dans les branches au-dessus de lui. Invisible ou pas, il tremblait de peur à l'idée qu'elle puisse deviner sa présence. L'une de ces araignées obèses courut soudain le long d'une corde jusqu'à une douzaine de paquets suspendus en rangée à une haute branche. Scrutant les ombres, Bilbo les vit pour la première fois et fut glacé d'horreur en apercevant un pied de nain qui dépassait de certains d'entre eux, ou, çà et là, un bout de nez, de barbe ou de capuchon. L'araignée fila tout droit vers le plus gros paquet. « C'est ce pauvre vieux bombure, évidemment, » pensa Bilbo, et planta ses crochets dans le nez qui dépassait. Il y eut un cri étouffé à l'intérieur et un orteil tressauta et frappa l'araignée d'un bon coup. Bombure était encore en vie. L'araignée enragée tomba de la branche et ne se rattrapa que juste à temps, à l'aide de son propre fil. Les autres araignées éclatèrent de rire. « T'avais bien raison, dirent-elles. Elle est vivante, cette viande, y a pas à dire. »« Pas pour longtemps !» siffla l'araignée en colère tout en remontant à la branche. Bilbo comprit que le moment était venu d'agir. Brandissant son dard, il commença à se dire qu'il avait peut-être un peu l'étoffe d'un brave aventurier. « comment le Hobbit se révéla un gentleman cambrioleur. Après avoir sauvé les nains des araignées et organisé leur spectaculaire évasion des prisons elfiques grâce à des tonneaux flottant sur la rivière, Bilbo poursuit son incroyable odyssée où il fait preuve d'un courage inattendu. Enfin parvenu à la montagne solitaire, Bilbo et ses compagnons découvrent l'antre du redoutable dragon Smaug. Ayant repris sa place légitime à la tête du royaume des nains, Thorin invite Bilbo à aller choisir sa récompense parmi les richesses volées par le dragon. Armé de sa fidèle épée, le voilà reparti à tâtons dans les ténèbres souterraines. Extrait du chapitre 12, des nouvelles de l'intérieur. C'est alors que Bilbo s'arrêta. Devant lui, il aperçut une lueur rougeâtre qui rougissait de plus en plus. La chaleur du tunnel devenait tout aussi manifeste. Des rubans de vapeur montaient jusqu'à lui et il se mit à suer. Il tremblait de peur, mais son petit visage était ferme et résolu. Déjà, c'était un hobbit très différent de celui qui avait quitté sa province de cul-de-sac sans son mouchoir un beau matin. Ce hobbit-ci ne traînait plus de mouchoir depuis belle lurette. Il fit jouer son poignard dans le fourreau, ajusta sa ceinture et se remit en marche. Continuer d'avancer, faire un pas de plus dans ce tunnel est la chose la plus brave qu'il ait jamais faite. Les événements extraordinaires qui suivirent ne représentent rien comparativement. La vraie bataille, il la livrait seul, à cet endroit, avant même de poser les yeux sur le formidable danger qui l'attendait. Parvenu à l'autre bout du tunnel, il glissa sa petite tête dans l'ouverture creusée dans la roche. Devant lui s'étend la grande caverne des profondeurs, la salle souterraine des nains d'antan, au cœur même de la montagne. Il fait presque noir et son immensité ne peut être qu'entreaperçue, mais sur le sol de pierre, de ce côté-ci de la salle, s'élève un grand rougeoiement, l'éclat de Smaug. Smaug était étendu là. Dragon de forme immense, rouge doré, et il dormait profondément. Un grondement émanait de ses mâchoires et de ses narines, ainsi que des volutes de fumée. Mais dans son sommeil, son feu couvait. En dessous de lui, sous ses membres et sa longue queue enroulée, et partout autour de lui, éparpillés jusque dans les recoins les plus sombres, gisaient des tas et des tas de choses précieuses. De l'or brut ou finement ouvré, des joyaux, de grandes jarres d'argent maculées de rouge dans l'embrasement de la salle. Smaug, les ailes repliées comme une chauve-souris de taille gigantesque, était étendu sur le côté de sorte que le hobbit pouvait voir sa partie inférieure et son long ventre pâle, tout incrusté de bijoux et fragments d'or, après qu'il fût resté si longtemps allongé sur ce somptueux lit. Dire que Bilbo en eut le souffle coupé ne saurait rendre compte de son ébahissement. Les mots pour le décrire n'existent plus, depuis que les hommes ont oublié la langue apprise des elfes, au jour où le monde entier était encore merveilleux. Envoûté, Bilbo contempla, immobile, l'or incalculable et inestimable, et en oubliant presque son redoutable gardien. Puis, attiré presque malgré lui, il se glissa hors des ombres de la porte et se faufila jusqu'aux amoncellements de trésors les plus proches. Le dragon était étendu à quelques pas, sa menace terrible même dans son sommeil. Bilbo s'empara d'une grande coupe à deux anses, tout juste assez légère pour lui, et leva des yeux craintifs. Smaug remua une aile, ouvrit une griffe et se mit à ronfler sur une nouvelle note. Alors Bilbo s'enfuit. Mais le dragon ne se réveilla pas, pas encore. Il se tourna vers d'autres rêves de convoitise et de violence, couché sur son butin, tandis que le petit hobbit remontait péniblement le long tunnel. Son cœur battait, ses jambes flageolaient, mais il serrait la coupe entre ses doigts et se disait « J'ai réussi, ils vont bien voir de quoi je suis capable. Plus un épicier qu'un cambrioleur, mon œil. Gageons qu'on n'entendra plus ce discours. » Il n'avait pas tort. Thorin sauta de joie en revoyant le hobbit tout aussi ravi qu'étonné. Il prit Bilbo dans ses bras et le transporta à l'air libre. Il était minuit et des nuages voilaient les étoiles, mais Bilbo gardait les yeux fermés, reprenant son souffle et goûtant l'air frais, remarquant à peine l'enthousiasme de ses compagnons qui lui tapaient sur l'épaule et le félicitaient. Les nains se passaient encore la coupe de main en main, évoquant avec euphorie la reconquête de leur royaume et de leur trésor, quand soudain, un puissant grondement s'éleva du fond de la montagne, comme s'il s'agissait d'un vieux volcan qui aurait décidé de se réveiller. De terribles échos venus des profondeurs remontaient le long du tunnel, comme un sourd mugissement et un piétinement qui faisait trembler la terre sous leurs pieds. Alors les nains, à peine revenus de leur fanfaronnade et de leur joie éphémère, furent pris de peur et se jetèrent au sol. Smaug n'était pas encore vaincu. Un nouveau vrombissement se fit entendre. Une lueur rouge illumina la porte du tunnel. Le dragon approchait. « Voleur, qu'il brûle, qu'il meure !» Une telle chose ne s'était pas produite depuis son arrivée à la montagne. Pris de panique, les nains se tournèrent vers Bilbo. Comme vous le voyez, leur opinion sur M. Bessac avait changé du tout au tout, et ils le respectaient de plus en plus, comme Gandalf le leur avait prédit. Ils s'attendaient d'ailleurs à ce qu'il leur propose un merveilleux plan pour les tirer d'affaire. Quelques-uns allèrent même jusqu'à se lever et s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui, se mettant à son service, eux-mêmes et toute leur famille, pour des générations à venir. Mais Bilbo n'aimait pas être celui dont tout le monde dépendait. Et il aurait bien voulu, à cet instant fatidique, avoir Gandalf à ses côtés.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
He'll solve your problems, he'll tell your future. He'll work things out so they're bound to suit you. He'll read your stars and he'll read your mind. And he'll find the way you should go. Take the chance of a lifetime, find out what you should know. A quite sensational, inspirational, magic mystery show.
A fortune telling, a magic spelling, a doubt dispelling of what?
A snake oil salad.
A conjuration, a celebration, so stop the party, let's go.
Take the chance of a lifetime, find out what you should know. A revelational, scintillational, magic mystery show.
When life is grim and things are drastic, just see me and all's fantastic.
As for payment, he's elastic. He takes cash or gifts or plastic.
Take the chance of a lifetime. Find out what you should know.
What could be more perfect for a couple of old hams? We supply the mumble jumble, they supply the clams.
Comment Bilbo le Hobbit ne put empêcher la guerre et son triste épilogue. Bientôt, Smaug le dragon sème la terreur, détruisant les villes alentour et incendiant la forêt. Mais au milieu de la débâcle, un valeureux guerrier, Bard, lointain descendant du seigneur du Val, affronte le monstre et le tue d'une flèche pointée sur son talon d'Achille, l'aisselle gauche. où aucun bijou incrusté ne le protégeait. Mais la paix est loin d'être gagnée. Thorin, le roi des nains, ne veut pas offrir de compensation au peuple des humains. Il refuse toute négociation menée par Bilbo, qui lui a dérobé son trésor le plus précieux, la pierre arcane de Trin, héritage de son père, l'ancien roi sous la montagne. Par un jeu d'alliance, la guerre s'étend alors à toutes les créatures de la contrée sauvage. Les hommes du lac, les nains de la montagne, mais aussi les elfes sylvains, les gobelins et les loups. À l'issue de la terrible bataille des cinq armées, le vaillant mais obstiné Thorin, fils de Trin, trouve la mort. Extrait du chapitre 18, Le voyage de retour. Thorin l'Écutchen reposait là, son corps meurtri, couvert de blessures, son armure fendue et sa hache ébréchée gisant à ses côtés. Bilbo s'enfuit à son chevet et il leva les yeux. « Ah, mon bon voleur, dit-il, je vais maintenant aux grandes salles de l'attente où je resterai auprès de mes pères jusqu'à ce que le monde soit renouvelé, puisque je délaisse tout l'or qu'il contient et me rends là où il est sans valeur. J'aimerais vous quitter dans l'amitié et retirer mes paroles blessantes l'autre jour à la porte de la montagne solitaire. » Bilbo posa un genou sur le sol terrassé par l'émotion. « Adieu, roi sous la montagne, dit-il. C'est une pénible aventure si elle doit se terminer ainsi, et aucune montagne d'or ne saurait y remédier. Mais je suis content d'avoir affronté à vos côtés les périls de votre quête. C'est plus qu'aucun Bessac ne mérite. » « Non, dit Thorin. Ne jugez pas ainsi de votre qualité, enfant des terres hospitalières. L'Ouest vous a prodigué ses richesses, du courage et de la sagesse mêlés en juste part. Si nous étions plus nombreux à célébrer la bonne chère, les chants et les réjouissances, plutôt que l'or ramassé, ce monde en serait plus joyeux. Mais triste ou joyeux, je dois le quitter maintenant. Adieu. » Alors Bilbo se détourna. Et cherchant la solitude, il s'assit à l'écart, enveloppé dans une couverture. Puis, croyez-le ou non, il pleura jusqu'à en avoir les yeux rouges, et même jusqu'à en perdre la voix. C'était un brave garçon, et il n'eut plus le cœur à la plaisanterie pendant très longtemps. « Je souhaiterais que Thorin ait vécu, se disait-il, mais je suis content que nous nous soyons quittés en amis. Tu es un imbécile, Bilbo Bessac, et tu as causé un gros gâchis en essayant de monnayer cette pierre d'Arcane. Il y a eu une bataille, malgré tous tes efforts, pour acheter la paix et la tranquillité. Mais il serait difficile de te blâmer pour ça, je suppose. » Son aventure commençait à lui peser et il brûlait d'entreprendre le voyage de retour. En fait, Bilbo mit encore quelques jours à se décider à partir. Thorin fut inhumé dans les profondeurs de la montagne et Bard déposa la pierre arcane sur sa poitrine. Puisse-t-elle être un gage de bonheur et de prospérité pour tous les siens « qui vivront en ces lieux, dit-il. » Sur sa tombe, le roi des elfes déposa, hors Christ, l'épée elfique que Thorin s'était vue confisquer lors de son emprisonnement. On dit dans les champs qu'elle brillait toujours dans l'obscurité quand des ennemis approchaient et que la forteresse des nains ne pouvait être assaillie à l'improviste. Dane, fils de Nain, devint roi sous la montagne. Des 12 compagnons de Thorin, 10 avaient survécu. Fili et Kili étaient tombés en le défendant avec leurs boucliers et leur corps tout entier. Les autres demeurèrent auprès de Dane, car le roi sous la montagne fut prodigue de son trésor. Mais lorsqu'il invita Bilbo à prendre la part qui lui revenait, celui-ci refusa. « C'est très gentil à vous, dit-il. Mais en réalité, comment pourrais-je ramener tout ce trésor chez moi sans m'attirer constamment guerre et massacre? Et je ne sais pas ce que j'en ferai une fois rentré. Je suis sûr qu'il vaut mieux le laisser entre vos mains. » Il finit par n'accepter que 2 petits coffres, l'un rempli d'argent, l'autre d'or, assez léger pour le voyage. Ce fut enfin l'heure de dire au revoir à ses amis. Adieu Balin, et adieu Dwalin, et adieu Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur et Bombur. Puissent vos barbes ne jamais se dégarnir. Si jamais vous passez près de chez moi, n'hésitez pas à sonner. Le thé est à 4 heures. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis il se détourna et partit. Thank you. Et enfin, pour conclure, le retour de Bilbo à son cher trou de Hobbit. Extrait du chapitre 19, la dernière étape. Un soir, quelques années plus tard, Bilbo était assis dans son bureau occupé à rédiger ses mémoires. Il songeait à les appeler « Un aller-retour, les vacances d'un Hobbit » quand on sonna à la porte. C'était Gandalf, accompagné d'un nain. Et ce nain n'était autre que Balin. « Entrez, entrez !» dit Bilbo. Et ils furent bientôt installés dans des fauteuils au coin du feu. Si Balin remarqua que le gilet de M. Bessac était nettement plus bombé et agrémenté de vrais boutons d'or, Bilbo vit aussi que la barbe de Balin était plus longue de plusieurs pouces et que sa ceinture, ornée de pierreries, était d'une magnificence toute particulière. Ils se remémorèrent leurs aventures, bien entendu, et Bilbo demanda comment allaient les choses autour de la montagne solitaire. Il semblait qu'elles allaient très bien. Toute la vallée s'était enrichie du labour des terres et l'ancienne terre de désolation était désormais remplie d'oiseaux et de fleurs au printemps et de fruits et d'abondance à l'automne. Et l'amitié régnait là-bas entre les elfes, les nains et les hommes. Ainsi, les prophéties des vieilles chansons se sont réalisées, dit Bilbo.
Bien sûr, dit Gandalf. Et pourquoi ne se réaliserait-elle pas? Vous n'allez tout de même pas les mettre en doute simplement parce que vous avez contribué à ce qu'elles se concrétisent.
Pensez-vous réellement que toutes vos aventures et vos péripéties ont été dictées par la chance, uniquement dans votre intérêt particulier? Vous êtes quelqu'un de très bien, Monsieur Bessac, et je vous aime beaucoup. Mais en réalité, vous n'êtes vraiment qu'un tout petit bonhomme dans un monde bien plus vaste.
Heureusement, dit Bilbo en riant.
Et il lui tendit le pot à tabac.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Jean-Benoît Tétu et elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem.